France Culture. Les nuits de France Culture.
Le cinéaste américain Frederick Wiseman a toujours scrupuleusement respecté les règles qu'il s'était lui-même fixées pour la réalisation de ses films documentaires. Une équipe très réduite, pas d'autre musique que celle captée dans le lieu où il tourne, jamais de commentaires, jamais une parole adressée aux personnes qu'il filme et par conséquent, jamais, au grand jamais, d'interview. Aussi devrait-on s'étonner qu'il ait précisément choisi de construire sur des entretiens l'émission de radio qu'il avait réalisée en 2007 pour répondre à une commande de l'atelier de création radiophonique. Mais, en découvrant cet épisode intitulé « Questions » signé par Frederick Wiseman, on devrait très vite comprendre que non, décidément, l'entretien, radiophonique ou cinématographique, n'était pas sa tasse de thé et que les personnalités du monde de la culture qu'il avait choisi d'interroger étaient toutes un peu bizarres, voire franchement étranges. Question de Frederick Wiseman, diffusée le 1er juillet 2007 sur France Culture.
La création.
Tempo. Atelier de création radiophonique. Question. Un documentaire de Frederick Wiseman.
Progression tout à fait significative. Nous recevons environ 1000 propositions par mois. Bien sûr, il y a peu d'élus, mais nous avons des critères de sélection très clairs. Le projet doit être original, il doit montrer une approche personnelle, un angle nouveau.
Je suis assis ici en Suisse avec l'acteur anglais Peter Blair, qui est maintenant en retraite, qui a eu une carrière qui a commencé en 43 et jusque l'année dernière et maintenant à l'âge de 89. Vous avez joué, je crois, le rôle d'un sous-officier dans un sous-marin. Ça, c'était votre premier rôle de cinéma, n'est-ce pas?
Oui, au début, puisque ma contribution n'était pas tellement bien connue, et ayant eu des connaissances de la langue allemande depuis mon enfance, j'ai joué plusieurs rôles, mais si j'ose me corriger, distingué confrère, j'aimerais vous dire que mon premier rôle était un officier de comment ça s'appelle, l'intelligence secrète, enfin, Geheimstaatspolizei. Et je me rappelle un rôle que j'ai eu une fois, j'ai frappé à la porte comme ça. Aussteigen! Et puis les gens sont affolés, ils sont sortis. Je dis « Ausweis, Papier, bitte !» Et puis les gens tremblaient. Et puis j'ai joué ce rôle. Et le metteur en scène était très satisfait de mon rôle. Et il m'a donné plusieurs rôles dans des sous-marins, commandants de sous-marins, enfin officiers, tout ce genre de rôles. Enfin, une fois, j'ai dû, je pense que c'était dans l'année 47-48, quand j'avais une voix encore plus forte qu'actuellement, et il y avait une scène d'exécution, un peu le temps d'exécution. Enfin, c'était comme ça. Le peloton d'exécution est sorti, et puis les pauvres types qui étaient mis contre le mur étaient, enfin, à l'aube, ils tremblaient de froid et ainsi de peur. Et puis j'ai donné l'ordre. Jetzt sind Sie bereit! Eins, zwei, drei, schießen!
Si je me souviens bien, vous avez joué beaucoup de rôles, des gens un peu tyranniques. Une fois, je crois que vous avez même joué le rôle de César.
Ah oui. Je jouais un rôle avec le Birmingham Repertory Theatre.
Ah oui.
Et une fois, on a donné une présentation au Bristol Old Vic.
Uh-huh.
Enfin, vous savez, l'assassinat de Jules César. There is a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune, omitted all the voyage of their lives, is bound in shadows and in miseries. On such a full tide are we now afloat, and we must take the current when it serves, or lose our ventures. Et puis un peu après cela, il y avait le fameux scène, et puis les assassins, les comploteurs étaient autour de Jules César, et puis je ne sais pas si c'était Catullus ou celui qui a fait le premier à plonger cette arme dans ma poitrine. Il a dit « Hang the spear for me !» Et puis, non, j'ai regardé vers Brutus et j'ai dit « Es-tu Brute ?»« Then fall Caesar. » Enfin, le metteur en scène était assez content, il m'a applaudi, mais on a dû jouer ce rôle 17 fois avant qu'on l'a tourné, mais ce film a été perdu depuis longtemps.
Ah.
Ça, c'était le début de ma carrière shakespearienne, en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est un peu malheureux que j'ai toujours eu les petites scènes où j'étais salaud, quand on dit ça en français, un salaud.
Oui, un salaud.
Je joue le rôle de salaud, surtout dans les films de la Deuxième Guerre mondiale, où on me cherchait toujours pour des petits rôles de chef de Gestapo, Bad Reichsführer, ces rangs compliqués des nazis avec leurs esprits tordus, mais j'ai accepté très volontiers parce que je voulais montrer l'horreur de ce type de petits fonctionnaires qui voulaient avoir un rôle décisif dans la vie des gens. Mais j'ai joué d'autres rôles. J'admire beaucoup le rôle de Macbeth.
Ah oui.
N'est-ce pas ? Avec sa terrible femme, Lady Macbeth, qui l'a poussée à faire des choses horribles. Quand je jouais le rôle de Macbeth, et que je ne sais pas qui c'était, là, cette magnifique dame qui jouait le rôle, ça reviendra à l'esprit. Florence Robeson, c'était ?
Ah non, elle est de... Je crois que c'était Flora Robeson.
Oui. Elle est morte depuis pas mal de temps, mais c'est une femme déjà avec une voix très seigneuriale, enfin, très arrondie. Out, out, damn spot. Enfin, elle jouait cette femme qui dominait d'une façon magistrale. Out, out, damn spot. Vous savez, quand elle essayait d'enlever ce petite tache de sa main.
Ah oui.
N'est-ce pas? Vous savez, mon nom m'appelle Peter Blair, mais ce n'est pas mon réel nom. Enfin, mon vrai nom, c'était Piotr Blarovitch. Mais par la suite, on a décidé de me donner Peter Blair. J'ai joué beaucoup de rôles d'Oxfordiens, de gens avec une langue.
Mais vous étiez né aussi ou votre père est venu en Angleterre?
Ah, mon père est venu en Angleterre quand j'avais très jeune âge. J'étais né en Biélorusse, ce qu'on appelle aujourd'hui Belarus. Enfin, quelle affreuse façon de l'histoire de traiter des grandes nations. Mais je rappelle que j'étais un petit bébé, j'étais pris de Kiev à un endroit qui s'appelle Kremenchuk. Mais mon père parlait le russe à la perfection. Quand j'ai fait mon devoir à sa satisfaction, il me dit très bien « Otchin khorosho !» Et ce que veut dire, tu sais ce que veut dire, c'est très très bien. Et puis j'ai dû une fois jouer un rôle où j'ai dû apporter de façon secrète des choses à la douane. Et puis le douanier m'a posé une question en russe. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Et je me rappelle que j'ai répondu en russe. Я не должен платить пошлину, как так я не новых вещей. C'était un rôle très très bien, mais on m'a dit que j'ai un peu exagéré parce que j'avais l'air de tellement coupable qu'on m'a tout de suite arrêté pour être un fraudeur devant la douane. Mais j'ai eu beaucoup de ce rôle de satanique officier Gestapo. Ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle Ralph Richardson, Rafe, we used to call him, qui disait « Don't overdo it, old man, or I'll give you a kick in the shins after closing hours in the pub. » Il était un caractère merveilleux, il n'était jamais cruel, mais il parlait comme ça, surtout quand il voit des acteurs comme moi, des petits acteurs. Lui, il jouait toujours avec un... il retenait sa voix et avec un contrôle parfait. Ah, Rafe Richardson, dans quelques rôles, je pense qu'il a même dominé mon cher Larry de l'époque, que j'ai jamais connu intimement, mais Rafe Richardson, merveilleux, merveilleux. Mais j'ai joué d'autres rôles. Et mon exemple dans ce film de Jack Benny, de l'histoire des acteurs, d'un troupe d'acteurs en Varsovie, To Be or Not to Be. Et puis il y avait un type, c'est un grand acteur allemand qui n'était surtout pas nazi, qui a dit, et il a interviewé, il disait, et puis Jack Benny a dit, a fait une bêtise, et puis cet officier important, avec un énorme estomac rond, comme beaucoup d'officiers à l'époque, il entrait dans la salle, il dit, Call me concentration camp Charlie. Et puis il a dit beaucoup de mots, à moitié en allemand, à moitié en anglais, mais il était très rigolo, comme tout ce film. Et puis il a des scènes terribles quand il criait contre les pauvres acteurs, mais je pense que c'était vraiment un homme charmant, parce qu'il faisait avec beaucoup de gentillesse en même temps. Et puis il disait très souvent dans ses rôles, « Für das Vaterland bin ich immer bereit zu sterben !» Ce qui veut dire, vous avez compris, pour la patrie, je suis toujours prêt à mourir. Mais de nos jours, ces pensées sont très déformées par l'actualité. J'aurais voulu jouer le rôle de ce monstre, Saddam Hussein, que vous savez, ce matin a été pendu.
Oui, vous avez...
Mais j'aurais pu jouer un rôle très impressionnant. Je pense qu'il était courageux jusqu'à la fin. C'était un terrible salaud, mais... Je pense qu'il aurait pu être... Il était tellement salaud que... Ça aurait pu faire un caractère d'un film très intéressant. Mais j'ai jamais pu jouer les rôles de tyran de langue arabe. Enfin, un peuple noble dans le dessert, mais dans les temps modernes. Vous savez, on parle beaucoup de ce phénomène de déjà-vu.
Ah oui.
Que n'est-ce pas qu'on a plusieurs vies.
Oui.
Et j'imagine que dans la période, dans une certaine période, enfin, j'aurais pu vivre en Allemagne de la culture.
Oui, mais c'est quelle période?
Goethe. Dichtung und Wahrheit. Chamisso, qui était un très grand écrivain, j'aimais beaucoup. Et puis, Ah, puis, il y a un autre grand écrivain de langue allemande que j'aimais beaucoup, Gottfried Keller. Il a écrit une pièce merveilleuse des paysans suisses qui s'appelait Romeo und Julia auf dem Dorf. C'était une très grande pièce, on pourrait l'appeler Romeo et Juliette villageois, n'est-ce pas? Enfin, il y a beaucoup de rôles où on essaie dans le temps moderne de mettre Romeo et Juliette de notre siècle, de notre temps, et c'est très émouvant. Je rappelle, ah oui, c'est même simple de dire que c'est Romeo, non, c'est Julia, c'est lui entre deux qui s'est poignardé, et William, c'est un moment, c'est il ou Louise, peu importe, il a dit, ah, this is my chief, ah! Et puis il a plongé cet énorme couteau, c'est elle, je pense, dans sa poitrine. Ah, moment triste, n'est-ce pas? Ah, donc j'ai joué à... Ah! Je me rappelle, j'ai joué un rôle même féminin de Mrs. Malaprop.
Ah!
Ce magnifique théâtre. Il y a des deux lignes qu'il y avait, je jouais le rôle de femme avec une énorme perruque. You go ahead and I shall precede you. Ah! C'était... Qu'est-ce qu'on s'appelait ce type? C'était un rôle très très intéressant. Et toute cette période de l'époque, enfin... Ah! Quand je pense à tous ces magnifiques rôles que j'aurais pu jouer, j'aurais voulu vivre pour 300-400 ans, mais restant avec la voix d'un jeune homme. Impossible. Enfin, mon dernier mot, c'est que vive la jeunesse, la scène vous attend, et le théâtre reste, même à l'époque du cinéma, et toutes ces inventions technologiques extraordinaires, le théâtre sera toujours le grand théâtre. Merci pour votre patience.
Merci.
Une fois le projet sélectionné, le travail commence. Alors là, nous sommes très exigeants. Et je crois pouvoir dire que cette exigence est toujours un gain de temps, un gain d'argent. Mais aussi, et c'est le plus important, c'est un gain de qualité. Car nous voulons être sûrs que le film traitera à fond le sujet. C'est un peu comme... c'est un peu la spécialité de notre chaîne. Nous offrons des documents certifiés d'une certaine manière.
Ça vous suffit?
Oui, ça va très bien. Ah, oui, ça c'est une voix très bien. J'aime ça. Ok, je crois que le niveau est bien. Ok. Je suis très contente aujourd'hui que nous avons avec nous. La nièce de le grand écrivain russe Anton Tchekhov. Elle est une dame très très forte, elle a 108 ans et elle va nous parler de son oncle. Et quels sont vos mémoires les plus fortes de votre oncle?
Mes souvenirs sont évidemment très lointains, vous vous en doutez, mais Je me souviens d'un jour où il était venu nous rendre visite chez ma mère et ma mère ne regardait que lui. Elle était en quelque sorte pleine de dévotion vis-à-vis de cet homme. Et cela m'énervait beaucoup quand j'étais enfant. Je ne supportais pas cela. Elle ne regardait que lui et je ne pouvais rien faire pour attirer son attention. Cela m'énervait beaucoup. Et un jour, j'essayais de montrer à ma mère un découpage que j'avais fait et elle n'y prêtait pas du tout attention. Et alors, j'ai pris mes petits ciseaux de petite fille et je suis allée découper un poisson dans l'écharpe d'Anton Tchekhov. Et quand elle s'en est aperçue, ma mère était furieuse. Elle m'a beaucoup grondée. Mais cela a beaucoup fait rire Tchekhov, bien sûr. C'était un homme très bon.
Est-ce que vous souvenez qu'est-ce qu'elle a aimé manger pour le petit déjeuner?
Oh, je crois qu'elle prenait du thé, mon Dieu, comme à peu près tous les Russes. Mais à part ça, non, je ne me souviens pas bien. Les enfants, nous étions un peu à l'écart et...
Quelle était la situation de votre famille? Est-ce que vous avez habité dans la même maison avec lui?
Oh non. Tchekhov, à ce moment-là, était à Yalta la plupart du temps. Et il était déjà très affaibli. Il avait besoin de soleil. Nous étions à Moscou. Et mon père était instituteur et ma mère a repris des études quand je suis née et assez vite elle est devenue institutrice elle aussi.
Est-ce que vous avez des souvenirs, je sais que vous étiez très jeune quand elle était morte, mais est-ce que vous avez des souvenirs des autres écrivains qui sont venus vous visiter ou ses opinions des autres écrivains qu'il a connus?
Oh, il aimait beaucoup Gorky, il le protégeait énormément, il essayait de lui présenter des femmes, ce qu'on m'a dit. Mais Gorky, cela l'énervait énormément que Tchekhov veuille le marier. Donc. Mais oui, il y avait une grande complicité entre eux deux. Ils se sont beaucoup écrits, bien sûr. Et, oui, ils se fréquentaient beaucoup. Bien sûr, il y avait Tolstoï qu'il mettait au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde. Il disait que si Tolstoï écrivait, il pouvait être lui-même un très mauvais écrivain. Ce n'était pas grave parce que Tolstoï écrivait pour tous.
Il a pensé que Tolstoï était un mauvais écrivain?
Non, pas du tout, c'est le contraire. Il disait que cet homme écrivait tellement magnifiquement que ce n'était pas important que lui-même soit un écrivain médiocre.
Si vous avez 108 ans maintenant,
oui.
Et votre oncle est mort en
1904, 4 et les 104. Oui.
Et comme ça, vous avez à peu près 5 ans quand il est mort.
Oui, oui, c'est cela.
Et est-ce que c'est vrai qu'il n'ait pas eu des enfants?
On ne peut jamais savoir, n'est-ce pas, pour un homme. Mais il n'en a pas eu officiellement. Vous savez, Tchekhov était d'une extrême discrétion. C'était incroyable ce qu'il pouvait être discret, et même fuyant par rapport à ces questions de l'amour. Je crois qu'il a eu beaucoup d'aventures et certainement même énormément. Il parle des choses de manière très allusive dans ses correspondances, dans ses lettres. Mais en même temps, il s'imposait une telle morale que je ne crois pas qu'il n'ait pas reconnu d'enfant, sachant qu'il était de lui. Mais il est bien possible, bien sûr, qu'il y ait de par le monde des enfants d'enfants de Tchekhov. Mais malgré tout, Tchekhov était quelqu'un d'extrêmement solitaire. Il d'une certaine manière, il dirigeait la famille. Et il donnait de l'argent beaucoup, il aidait tout le monde et il était un peu celui qui faisait la morale, surtout à ses frères aînés. Mais ensuite il y a eu la mort de Nikolai. Nikolai était son frère aîné, mais il est mort de tuberculose.
Oui, mais dans la biographie de Tchekhov par Vladimir Pnine, c'était suggéré que votre mère était une très bonne amie, qu'elle était très proche à Tchekhov. Est-ce que vous avez...
Oui, c'est vrai qu'ils étaient très proches, mais c'était un sujet dont on ne parlait pas dans la famille. Ma mère a été totalement bouleversée par sa mort et a mis de nombreuses années à s'en remettre. Bien sûr, je sais qu'il y a eu des bruits comme quoi ils avaient une liaison, mais vous savez, c'est assez terrible, mais ma mère a failli se suicider après la mort de Tchekhov et cela a été très douloureux pour mon père, bien sûr, et je lui en voulais énormément, car j'ai vu mon père souffrir atrocement. Mais à la mort de mon père, il a bien fallu que je me réconcilie avec cette mère, et comme nous sommes partis à l'étranger, les choses se sont apaisées pour elle. Il y avait 15 années de passé. Je pense que cela allait mieux. Je suis heureuse d'avoir pu me réconcilier avec elle.
Merci beaucoup, madame.
Je vous remercie. Thank you.
l'élaboration du dossier, c'est une phase primordiale. Et il y a un dialogue, une vraie connivence qui se crée avec les réalisateurs. On échange des idées. Vous savez, moi, j'aime bien me comparer à un mur de squash. Je renvoie la balle. Et les réalisateurs adorent ça. Bon, les bons, bien sûr. Ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent que leur film a tout à y gagner. Oui, parce que vous savez, moi, j'ai 20 ans de maison. En 20 ans, j'ai appris à connaître le public. Et je sais que le public, on ne peut pas lui en raconter. Vous savez, ce qui ne supporte pas le public, c'est qu'on le prenne pour un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils n'aiment pas non plus l'inverse, le public. Les gens qui sont trop intello. Moi, je dis toujours, intelligent, oui, mais pas intellectuel. Non, ce qui lui plaît au public, c'est de voir des vrais gens. Pas des gens compliqués, pas des gens intellectuels, des vrais gens qui vont représenter tous les autres gens. C'est pour ça que filmer l'art, par exemple, c'est un problème. L'art conceptuel, on va quand même pas aller filmer des gens qui pensent.
Just 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moi, je suis avec Monsieur Jérôme Bonnard, qui est écrivain et qui va nous parler de la question de la violence dans le théâtre d'aujourd'hui. Monsieur Bonnard.
Oui, je suis auteur dramatique et ce qui est intéressant, je pense, dans mon cas, c'est que je n'ai jamais été joué encore en France. Je dis que c'est très intéressant parce que ça fait symptôme très clair de l'état de la société française et que je pense que si je ne suis pas joué, c'est une attitude absolument défensive. Enfin, c'est-à-dire on se défend, je crois, contre quelque chose d'extraordinairement grave et profond et important en refusant absolument de me voir jouer, alors que j'ai déjà écrit 4 pièces sur lesquelles vous aviez raison de parler de violence, parce que sont des scènes que j'organise, que je concocte, que je peaufine, et qui font preuve d'une assez grande violence. C'est un propos de ma part tout à fait délibéré et conscient et assumé. Et j'assume d'ailleurs aussi bien le fait d'écrire des pièces que l'on peut dire violentes, aussi bien que le fait de les voir absolument refusées par mes contemporains. Comme que vous dire de plus sur cette défense, c'est que elle se fonde sur une conviction profonde, une conviction qui procède d'une analyse dont je pense qu'elle est assez difficile à contester de l'état de la société française et occidentale, qui est en quelque sorte, mais je ne suis pas le premier à le dire, tout à fait désenchanté, quoi. Ce désenchantement, je pense, est corrélatif d'une perte considérable du sens de l'humain, sens de l'humain auquel je suis extraordinairement attaché, et qu'on peut peut-être essayer de retrouver en confrontant mes contemporains, non pas à la violence réelle qui me fait tout à fait horreur, mais à la représentation de la violence. Je crois que l'excès est une chose absolument salutaire pour qu'on retrouve le sens de l'humain dans un monde dont tout un chacun peut bien voir qu'il est absolument désenchanté. Le projet général, au fond, ça serait de réaliser, je crois que j'y suis arrivé, à une synthèse, si vous voulez, entre les idées de Bertolt Brecht et celles d'Antonin Artaud. Comme Bertolt Brecht, je pense qu'il importe au plus haut point de rendre conscient le spectateur Et j'emprunte à Antonin Artaud l'idée de lui secouer les nerfs. Au fond, mon projet dramaturgique, c'est de rendre lucide, de rendre conscient, de faire accéder à un stade supérieur de la conscience, tout en ébranlant les nerfs. Et ça, je crois que le jour où mes pièces seront jouées, mais à mon avis, elles ne le seront jamais, ça apparaîtra absolument clairement à tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire du tout que cette représentation de la violence s'assimile au grand guignol. C'est-à-dire, j'écris dans mes pièces des didascalies tout à fait précises sur ce que doivent faire les metteurs en scène. Et il ne s'agit pas d'actes grand guignolesques avec du sang blanc, de sang, etc. J'essaie de pousser les choses jusqu'à ce qu'il y ait, dans le respect de la loi, parce que, comme tous ceux qui sont très très favorables à l'excès, je suis encore plus attaché que n'importe qui à la loi, quoi. Dans le respect de la loi, donc, on peut aller jusqu'à des actions que des journalistes un petit peu pressés pourraient qualifier de sadomasochistes, si vous voulez. Au fond, d'ailleurs, on sait bien que ce désenchantement du monde est tout à fait lié à la déchristianisation et que abandonner la représentation d'un corps torturé, maltraité, est au fond une catastrophe pour le monde occidental. Donc il faut essayer de retrouver des rituels sadomasochistes qui redonnent espoir à nos concitoyens. C'est une certaine frilosité, je dirais, de la part des autorités. La plupart des directeurs de théâtre ou des metteurs en scène sont plutôt favorables au spectacle de la violence, mais je dirais d'un point de vue un peu centriste. Ils sont pour une violence tolérable. Or, c'est bien l'intolérable qui doit être montré. Il n'y a que l'intolérable qui peut secouer les nerfs et donc secouer la conscience. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des centristes? Dormir, alors que l'aspiration est plutôt d'éveiller, quoi. Par exemple, une des scènes, enfin de cette pièce d'ailleurs qui avait été lue à Yokohama, présentait l'éventration d'une femme enceinte. Donc vous voyez, enfin toute la force symbolique que ce geste pouvait avoir, la force symbolique aussi grande, aussi haute et aussi forte que l'ébranlement de nerfs dont je parlais. Tout à l'heure, d'ailleurs, enfin, dans la didascalie qui accompagne cette scène, elle est accompagnée de la chevauchée des Valkyries. Enfin, donc, tous les moyens nécessaires pour, aiguiser la portée idéologique du message sont utilisés dans cette scène. Je crois que si nous sommes en paix aujourd'hui, la vie est plutôt calme et sereine, à l'époque de la mondialisation, la vraie mondialisation, c'est celle de la violence. Et il faut donc que nous retrouvions le sens de cette violence. Et si des acteurs dans les représentations de ces spectacles pourraient être blessés ou affectés par ce qu'ils représentent, ils seraient sans doute aujourd'hui les héros des temps modernes, les héros d'une société qui est, j'allais dire malheureusement, mais peut-être, oui, disons malheureusement, en paix.
Oui, mais vous avez parlé de Yokohama. Est-ce que vous êtes lié dans un certain sens avec l'œuvre de Mishima et la façon qu'il se tuait?
Oui. Alors, il y a quelque chose d'héroïque chez lui, et je dois dire que je regrette presque de n'être pas japonais moi-même, parce que je serais tout à fait incapable de faire ce qu'il a fait. J'aurais beaucoup aimé en être capable, mais je crois que j'aurais vraiment beaucoup de mal à me faire à moi-même ce que je fais faire aux acteurs sur une scène de théâtre. Dans le théâtre que je propose, il y a effectivement la possibilité d'un passage à l'acte qui rendrait cette représentation unique. Et comme bon nombre de mes prédécesseurs, je suis très favorable à cette idée d'un acte qui n'aurait lieu qu'une fois. C'est la plus belle négation du théâtre qui puisse exister. C'est-à-dire que tout le théâtre que j'écris vise à la négation du théâtre. Le reste, après cette brûlure ou cet incendie, le reste, les cendres de cet incendie seraient la restauration de ce que je disais tout à l'heure, le sens de l'humain.
Et qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre responsabilité envers le public et envers un comédien qui fait le choix de jouer le jour et surtout dans une de vos pièces?
Ah, je n'ai absolument aucune responsabilité, parce que je pense que mes concitoyens sont libres. Je suis absolument favorable à ce que on leur conserve leur pleine liberté, y compris des libertés qui peuvent conduire à des issues fatales. D'ailleurs, le titre d'une de mes pièces est « Issue fatale ». Donc ça dit bien ce que ça veut dire et ce à quoi ça vise. Le jour, d'ailleurs, où cette issue fatale aura lieu pleinement, sera pleinement accompli, alors je retournerai à ce qui fait mon véritable intérêt dans la vie, en réalité, et qui m'occupe la plupart du temps, qui est la culture des fleurs. Enfin, je m'intéresse en réalité surtout aux fleurs. Je passe mon temps, j'ai des serres dans ma maison, et quand je n'écris pas des scènes comme ça d'ultra-violence, qui sont le moment civique de ma vie, je dirais, puisque c'est celle où je me préoccupe de mes contemporains, alors je soigne mes plantes, je fais des boutures, je fabrique moi-même mon engrais, et je veux dire que c'est une activité qui m'apporte énormément de satisfaction. Mais vous savez, au fond de ma démarche, il y a aussi quelque chose que personne ne veut comprendre, c'est que j'attends que quelqu'un m'arrête. Personne ne m'arrête. Le scandale de mes pièces, c'est au fond que personne ne m'arrête. Et personne n'a vu que c'était un appel. Enfermez-moi. Enfermez-moi. D'ailleurs, on ne joue même pas mes pièces. Alors, si on les jouait, si j'étais mis en cause, incarcéré ou enfermé dans un hôpital psychiatrique, ça voudrait dire que des progrès ont été faits, enfin, que le monde pourrait commencer à être réenchanté par le spectacle que je lui aurais donné et l'exclusion du poète que je suis. En tant que poète, je suis absolument irresponsable. Et en plus, je le sais.
Récemment, on nous a apporté un film de 3 heures sur les chevaux de course. Un beau film, avec des vrais points de vue. Bon, mais 3 heures. Qui aujourd'hui va rester 3 heures devant sa télé, je vous le demande. Eh bien, on a trouvé une solution. On a fait un film de 6 minutes, un autre de 26, un de 13 minutes, et ça a fait un beau succès. On a fait aussi une version de 52 minutes qu'on diffusera peut-être, vu le succès. Donc vous voyez, la télé, c'est ça aussi. C'est la flexibilité. Le réalisateur, il s'est fâché avec son producteur, je sais pas. Une histoire interne. Du coup, il a pas pu finir le... Excusez-moi. Oui ? Ouais. Quoi ? Quoi ?
C'est hors de question pour qui il se prend. Quoi ? Non, écoute, on arrête tout. Tu lui interdis la salle de montage. C'est moi qui décide, merde ! Excusez-moi.
Testing 1, 2, 3, 4.
Ah, bonjour madame. Je sais que vous venez de l'Amérique et c'est un peu étrange qu'un Américain enseigne le français aux immigrants. Et comment est-ce que vous êtes arrivée à ce travail?
Moi, j'avais besoin de boulot. Et alors, on m'a offert ceci, et j'ai dit oui. Moi, je suis une ancienne professeure de petits-enfants. Comment dit-on en français? Kindergarten? Non, c'est pas ça. Jardin d'enfants. Et en Amérique, je veux dire.
Vous avez enseigné les enfants en anglais. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez être professeur de français parmi les gens qui ne parlent pas du tout un mot de français ni d'anglais?
Je le fais. C'est tout.
Mais c'est un peu, c'est pas un peu typiquement américain. Vous pensez que vous pouvez faire tout, pas de préparation, pas...
Oh, j'ai beaucoup de préparation.
Quel est le...
Je lis les journaux tous les jours.
Oui.
Et je parle français depuis longtemps, monsieur. Depuis longtemps. C'est mieux que ces pauvres gens parlent français avec un accent américain que de ne pas parler français du tout.
Mais ça c'est...
Moi, je vais montrer à ces pauvres gens comment parler le français.
Mais pourquoi qu'ils sont pauvres?
Parce qu'ils viennent ici avec rien, et ils ne parlent pas la langue, ils ont la bonne chance que le bon gouvernement français, dans sa sagesse, leur donne un professeur comme moi.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où viennent ces étudiants?
Oh, ils viennent de partout, de tous les mauvais coins du monde, les pauvres.
Mais vous parlez des mauvais coins du monde, ça veut dire, vous pensez que l'Afrique ou le Moyen-Orient, c'est les mauvais coins?
Mais vous savez, monsieur, en Afrique, ils n'ont pas de vraies toilettes. Ils n'ont pas beaucoup de bonnes choses en Afrique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ces pauvres gens.
Oui, mais...
Oh. Ils n'ont pas beaucoup à manger. Ils n'ont pas beaucoup de bonne eau à boire. Ils ne savent pas très bien lire. Ils n'ont pas une bonne éducation. Alors, je veux les aider. Il y en a parmi eux. Je peux vous dire, les gens très intelligents. Ah oui, j'apprends beaucoup de choses sur leur vie dans leur pays à eux. J'ai appris qu'ils sont très heureux d'être dans la belle France, dans la douce France.
C'est vrai.
Je ne suis pas du tout condescending à mes étudiants. Je leur apprends de parler la bonne français. Ils pensent que de pouvoir gagner assez d'argent pour avoir de bons logements, de bonne nourriture. Vous avez remarqué qu'on mange très bien en France. Des fois, je leur demande s'ils veulent venir avec moi à un musée. Et des fois, un ou deux viennent avec moi à un musée, comme par exemple le Louvre. Et je crois qu'ils apprécient beaucoup cela. Ils me disent merci beaucoup, madame, pour nous avoir amenés ici. Ça nous a plu.
Oui, mais il y a un langage. Les gens peuvent parler de leur réponse.
Comme c'est un grand statue ou cette dame a perdu ses bras, par exemple.
Uh-huh. Et est-ce que vous les expliquez pourquoi cette dame a perdu ses bras et l'histoire de cette dame?
Vous savez pourquoi cette dame a perdu ses bras?
Non, je...
Moi non plus. Nous restons en or. Je leur montre la dame sans bras. Je leur montre cette fameuse peinture avec cette femme stupide qui sourit. Sur quoi on n'a aucune idée. Et alors, ils peuvent dire après qu'ils sont entrés dans le Louvre.
Merci, madame. Et
est-ce qu'on vous donne d'argent de faire ça? Peut-être ils peuvent me payer.
Le projet doit être original, il doit montrer une approche personnelle, un angle nouveau. Et en même temps, il ne faut pas bien sûr qu'il soit trop personnel, c'est-à-dire qu'il n'intéresse que l'auteur et une poignée de copains.
C'était la face A de l'atelier de création radiophonique avec Question, un documentaire de Frédéric Weizmann. Avec la participation de Peter Blair, Elisabeth Touvoulou, Olga, Iliana, Jean Bonnard. Mixage Philippe Carminati. Une réalisation de Anne-Pascale Desvignes. Cette pièce est présentée en collaboration avec le Centre national des arts plastiques, ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre d'une commande publique.
Vous venez d'entendre « Question » de Frédéric Weizmann. Première diffusion le 1er juillet 2007 sur France Culture dans l'atelier de création radiophonique.